c'est deux points différents. Alors déjà, je suis gentil d'apprendre, j'ai une vision progressiste de l'histoire, c'est bien, parce que chez moi, c'est une éternelle question. Non, je suis au contraire, je suis vachement pessimiste. C'est-à-dire, si ce que j'aime lire dans l'histoire, c'est d'essayer de tirer des leçons du passé, parce que je trouve qu'on a trop souvent reproduit les mêmes erreurs. Bon, et que même la lecture de l'histoire globale peut vous permettre de prendre des décisions dans votre métier qui lui reste très local. Donc là, vous avez juste mentionné la différence qu'il peut y avoir entre une uchronie optimiste et une uchronie pessimiste. Une uchronie optimiste, c'est une uchronie qui imagine qu'Hitler a gagné la guerre. Dit comme ça, ça surprend. Mais c'est optimiste en ce sens que ça veut dire que l'univers aurait pu être pire que celui dans lequel nous vivons. Donc quelque part, ça reste bien optimiste. Donc Philippe Roth, à cet égard, écrit bien une uchronie optimiste, paradoxalement, puisque lui, il imagine effectivement toute sa jeunesse, c'est une fausse biographie, c'est une biographie uchronique de lui-même, dans complot sur l'Amérique, complot contre l'Amérique. Puisque donc il relate sa jeunesse dans un univers parallèle dans lequel effectivement Lindbergh, très apparenté au Ku Klux Klan, donc, est devenu président des États-Unis. Inversement, vous avez eu pendant très longtemps, d'ailleurs c'était quasiment exclusif historiquement, les toutes premières uchronies étaient quand même des uchronies, si on met un peu, par exemple Renouvier, une uchronie pessimiste, en ce sens que lui, il imagine vraiment que l'univers qu'il écrit est bien meilleur que celui dans lequel il vit. Geoffroy, quelque part, même s'il s'amuse beaucoup, et c'est très ambigu chez Geoffroy, on n'arrive pas à savoir s'il est pro-bonapartiste ou si, au contraire, vu comment il rend l'empereur parfois ridicule ou les choses ridicules, très ambigu. Mais enfin, en tant que Français, il imagine quand même un univers dans lequel la langue française et la culture française rayonnent, donc quelque part, de son point de vue, son univers parallèle est certainement plus agréable pour un francophone qu'un non-francophone. Moi, je pense qu'en fait, le clash est assez récent, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens ont vu la technique comme apportant des progrès et que depuis la Seconde Guerre mondiale, la chose est partagée. Il y a eu une grande période de pessimisme dans les années 60-70 où très souvent on écrivait des textes montrant les méfaits de la science. C'est quand même en train de revenir ces 20 dernières années parce qu'on se rend compte aussi que la science apporte beaucoup sur le domaine médical ou sur d'autres domaines, donc je pense que les choses redeviennent un peu équilibrées, ce qui doit être. Après, vous avez posé une deuxième question très différente. Bon, je suis allé vite tout à l'heure, mais évidemment, il y a ce qu'on appelle... Enfin, je l'ai mentionné à propos de Babar, d'ailleurs. Hein, donc, ce que vous parlez de Star Trek. Star Trek a sa ligne temporelle propre, que les fans connaissent bien et bien mieux que moi. Hein, donc, si ma mémoire est bonne, dans Star Trek, il y a une espèce de guerre futuriste qu'ils appellent eugénique. Je ne sais plus si c'est au 21e siècle, enfin, notre siècle maintenant, qui est Star Trek dans les années 70. Hein, donc, qui est décrit au niveau de science-fiction à un moment donné. Donc, à partir de là, découle un certain nombre de datations futuristes. Et donc, imaginer dans cet univers que quelque chose se passe différemment, c'est bien écrire au sens formel, hein, puriste du terme, une uchronie de Star Trek. Dans le Babar, je préfère parler de ça parce que c'est toujours marrant avec les enfants. Dans le Babar en question, ce qui est très marrant, c'est que Babar en a marre de sa charge de roi. C'est fatigant d'être roi. Il trouve une amulette magique. Il formule sans le savoir, ah, si j'étais pas roi, dans la forêt, sortant de la forêt, il tombe sur Ataxesville. C'est pas Babarville. C'est pas Célesteville, pardon, c'est Ataxesville. Et donc là, personne ne le connaît, personne ne le reconnaît. Céleste est une pauvre esclave des rhinocéros et tout. Donc on est bien dans un univers totalement parallèle et uchronique de la Tamane de Babar. Et on apprend même le point de divergence, pour ça ce dessin animé d'une vingtaine de minutes est très bien réussi, puisque finalement, dans cet univers-là, Babar, quand sa maman est morte, est allé à la ville avec la vieille dame, mais n'est jamais revenu dans la forêt. Donc il n'est jamais retrouvé Céleste après pour l'épouser et n'a jamais créé le royaume de Babari. Petite, oui, c'est ça, je suis pas de mémoire, il travaille dans un cirque, je ne sais plus quoi. Donc, alors la grande leçon d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une leçon, effectivement, quelque part, même si elle est humoristique, c'est que même si sa charge est difficile, bah, comme l'univers aurait été pire, bah, à la fin, bah, il reprend son bâton de pèlerin, puis il se remet à essayer de faire fonctionner positivement son royaume. Et la deuxième grande leçon que j'ai prise, c'est une petite fille de 4 ans qui, ou de 5 ans qui me l'a dit, puisque lorsqu'on faisait discuter les enfants avec la maîtresse derrière, à un moment donné, il y en a une qui m'a dit bah, « c'est bien cette histoire, mais quand même, ceux qui ont inventé l'histoire, ils auraient pu faire mieux. » Je lui ai dit « ah bon ?» Et elle m'a dit bah, « oui, ils auraient quand même pu faire en sorte que la maman de Babar ne meure pas. » Et je vous rappelle que le grand traumatisme pour les enfants, c'est quand la maman de Babar meurt et la maman de Bambi meurt. Et donc, la grande uchronie dont tous les enfants rêvent, et on a tous rêvé un jour, c'est qu'elle ne meurt pas. Et donc, c'est quand même intéressant. Des fois, on est quand même ramené à des fondamentaux par des enfants de 4 ans. Voilà.
Le traitement de l'histoire est toujours très... très dangereux, enfin pour certains. Et effectivement, en anecdote aussi, moi, Pierre Bordage, dans sa première idée, voulait traiter la divergence suivante, les Arabes ne sont pas arrêtés à Poitiers, et voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est, intellectuellement, c'était très intéressant. Mais Flammarion a dit oui, pour le numéro 1 de la collection, c'est peut-être un peu faux.
Quand même. J'ai bien eu le même problème.
Donc voilà, on est dans ça. Et est-ce que tu pourrais peut-être, spécialiste, parler, c'est cette histoire entre les historiens anglo-saxons qui acceptent facilement l'Uchronie et je pense les historiens français qui ont certaines réticences en fait. Non, les personnages, enfin l'histoire avec un grand H reste la même. Ce n'est qu'une introduction de personnages fictifs à l'intérieur.
Tout Stendhal est l'histoire secrète. Puisque tout Stendhal décrit les batailles de l'époque avec son héros, qui fait des prouesses absolument phénoménales, mais dont finalement notre histoire, quand vous ouvrez le Larousse ou l'encyclopédie, ne parle pas. Je m'amuse, mais donc ce n'est pas l'Uchronie. Au mieux, c'est l'histoire secrète, et soyons objectifs, c'est tout simplement un roman. On va arrêter d'être puriste et de mettre des étiquettes sur tout. L'objectif de Stendhal n'était pas d'écrire ni l'histoire secrète, ni quoi que ce soit d'autre. C'était d'écrire un roman se passant dans la trame contemporaine. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas du chronique. Non.